Chapitre 7, le portrait. L'événement capital de cette histoire et son héros nous ont à ce point occupés que nous n'avons point trouvé le temps de présenter comme il faut M. Adolphe Le Camus. Le peu que nous en savons n'est point pour le rendre sympathique. La place qu'il occupe dans le ménage l'orgueille et qui est éminemment immorale, le cynisme avec lequel il trompe une âme simple, le peu de danger qu'il semble courir en accomplissant un larcin qui est honteusement puni par le code Napoléon, voilà bien les raisons pour que nous éloignions de lui en marquant quelque mépris. Ce serait, disons-le tout de suite, le juger hâtivement. Il s'y est, avant de le condamner, de plaider les circonstances atténuantes. La principale, et qui vaut bien qu'on s'y arrête, est qu'il aime Théophraste par-dessus tout. Il l'aime dans ses défauts, dans ses faiblesses, dans sa naïveté, dans la confiance qu'il a en lui, et surtout dans l'admiration qu'il a de lui, Adolphe. Il n'est point de sacrifice qui ne soit prêt à consentir pour Théophraste. Et je dis que si Théophraste avait des ennuis d'argent, qui sont les seuls véritables ennuis qui comptent ici-bas, Adolphe Le Camus ouvrirait sa bourse et lui dirait « Prends !» Adolphe aime Théophraste par-dessus tout, c'est-à-dire qu'il l'aime par-dessus Marceline. Je ne prétends point faire ici de la psychologie, mais je me trouve en face d'un cas qui est beaucoup moins ordinaire qu'on ne serait porté à le croire. Adolphe aime bien Marceline, puisqu'il en a fait sa maîtresse, et cependant, il aime Théophraste plus que sa maîtresse, qui est la femme de Théophraste. Je m'explique. S'il avait su, par un avertissement surnaturel de l'avenir, que Théophraste aurait un jour le chagrin d'apprendre qu'il était cocu, Adolphe aurait respecté Marceline. Mais Adolphe s'était dit « Oh, Théophraste ne sera jamais rien, malheur caché n'existe pas. » Et voilà dans quel sentiment il était devenu l'amant de la femme de son meilleur ami. Ces lignes étaient nécessaires pour que le lecteur comprît bien que la fourberie de l'amant, si tant est qu'il y eût fourberie et la circonstance, ne pouvait contredire en rien le dévouement de l'ami. Adolphe était dévoué à Théophraste. Aussi, après le départ du commissaire, se prit-il à considérer avec un réel désespoir, sur la table de la salle à manger, les 3 montres, les 6 mouchoirs, les 4 portefeuilles et les 18 porte-monnaies. Il est beaucoup plus facile de s'emparer de 18 porte-monnaies dans la poche d'un pantalon que de voler 4 portefeuilles dans la poche intérieure d'une redingote qui peut être boutonnée. Marceline, Adolphe et Théophraste se taisaient devant l'étalage inattendu de ces objets disparates. Théophraste était d'une tristesse effrayante à voir. Il rompit le premier le silence, il dit « N'ai plus rien dans mes poches. »« Oh, mon ami !» fit Marceline dans un soupir de reproche. « Mon pauvre ami !» accentue Adolphe, qui craignait de laisser pénétrer sa pensée. « Ben, je crois bien, » murmura Théophraste, qui épongeait la sueur froide de son front avec un mouchoir dont il ignorait la provenance. « Je crois bien que j'ai eu ma plume noire. » Marceline et Adolphe, atterrés, se taisaient encore. Théophraste les regarda, essuya les verres de ses lunettes. Il sourit et dit « Après tout, dans ce temps-là, c'était peut-être un jeu de société. » Et il se fourra l'index de la main droite dans la bouche, geste familier qui indiquait chez Théophraste une préoccupation excessive. Ni Marceline, ni Adolphe, ni Théophraste n'osaient toucher un seul de ces objets inconnus qui surchargeaient la table. « Mon ami, reprit Marceline, retire ton doigt de ta bouche et dis-nous comment tu as fait pour avoir sur toi 3 montres, 6 mouchoirs, 4 portefeuilles et 18 porte-monnaies, sans compter le mouchoir et le portefeuille de M. le commissaire Villefroy. » J'ai retourné ce matin toutes tes poches en nettoyant tes effets, et je n'y ai trouvé, comme à l'ordinaire, que quelques grains de tabac. Ben, il y avait place de la Concorde, fit Théophraste, une agglomération, alors je suis entré dedans. J'en suis sorti avec tout cela, c'est bien simple. Mais qu'est-ce que nous allons en faire? Demanda Adolphe d'une voix grave. Oh. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Répliqua Théophraste, qui se remettait peu à peu. Tu penses même pas que je vais les garder? Est-ce que j'ai l'habitude de garder ce qui ne m'appartient pas? Je suis un honnête homme, je n'ai jamais fait de tort à personne. Là, tu vas prendre tout cela et le porter chez ton ami, le commissaire de police Bifroi. Il sera facile de retrouver les propriétaires. Mais qu'est-ce que je lui dirai? Oh, ce que tu voudras, ah, éclata Théophraste qui commençait à s'impatienter. Est-ce que l'honnête cocher qui trouve une serviette et 50 000 francs dans sa voiture et qui les porte au commissariat se préoccupe de ce qu'il dira? Il dit, oh, j'ai trouvé ceci dans ma voiture et cela suffit. On lui donne même une récompense. Ben toi, tu diras, mon ami Longuet charge de vous rapporter ces objets qu'il a trouvés dans ses poches et il ne demande pas de récompense. Depuis un instant, Marceline avait placé sous la table son pied sur le pied d'Adolphe. Du reste, c'était là le plus souvent, quand il y avait table entre eux, que l'on pouvait trouver le pied de Marceline. Il ne faut point l'en blâmer. Songez que sa tendresse pour son mari pouvait librement s'exprimer. Il lui était loisible devant tout le monde de l'embrasser, de le caresser, de l'appeler Montéo et de l'entourer de ces 1 000 petites attentions qui, venant d'une femme, surtout de la sienne, flattent infiniment le cœur et la vanité si naturelle d'un époux. Mais si quelque démonstration de sympathie un peu osée lui eût échappé en public à l'adresse d'Adolphe Le Camus, on n'eût point manqué de dire que Théophraste était trompé par son meilleur ami. Elle, Marceline, eût été compromise. Théophraste eût été ridicule et Adolphe Le Camus eût passé pour un vilain monsieur. Comme Marceline était une femme intelligente, elle avait résolu d'éviter cette nuit inutile et triple catastrophe en réservant toutes ses caresses visibles à son mari et en gardant les cachets pour son amant. Il se rencontre beaucoup de femmes mariées et qui n'ont point cette discrétion, et si elles s'en trouvent les premières châtiées par les désagréments que tant de bénévoles audaces leur attirent, la caresse du pied était celle que Marceline prodiguait le plus souvent à Monsieur Le Camus. C'était aussi, il faut l'avouer, parmi toutes les autres, la caresse la plus inoffensive. Mais elle s'y complaisait. Puisqu'il leur était interdit à Adolphe et à elle de s'attarder en de longues songeries, la main dans la main, comme on le voit faire aux amants dans les tableaux des peintres mélancoliques, ils s'oubliaient ainsi, le pied sur le pied. Et même pour un juste équilibre de toutes les facultés, pendant des heures, quelquefois, quand il y avait une table entre trois, Marceline et Théophraste restaient la main dans la main au-dessus de cette table, cependant que Marceline et Adolphe au-dessous restaient le pied sur le pied. Et Marceline, qui avait, comme on dit, de la santé, était aussi heureuse au-dessus de la table qu'au-dessous. Le jeu du pied ce soir-là n'était point simplement une caresse. Il signifiait « Adolphe, Adolphe, où allons-nous? Il me semble que Théophraste déménage. Viens à mon secours, viens au secours de Théophraste. » Adolphe avait compris. Il fronçait les sourcils et se grattait le bout du nez. Il jugeait la minute importante. Il regarda encore Théophraste, il regarda les porte-monnaies, il toussa, il dit « Théophraste, ce qui vient de se passer n'est pas naturel. Il faut tâcher de nous expliquer, il faut nous efforcer de comprendre. Il ne faut point fermer les yeux, mon ami, il faut les ouvrir, les ouvrir tout grand à ton malheur, si malheur il y a, afin de le combattre. Et de quel malheur parles-tu ? Demanda Théophraste, redevenu timide, et prenant dans sa détresse la main de Marceline. Là, c'est toujours un malheur d'avoir dans ses choses, dans ses poches, des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais il n'y a que cela dans les poches de prestidigitateurs, s'écria Théophraste avec force. Et les prestidigitateurs sont d'honnêtes gens. Et Théophraste, Longuet, est un honnête homme par les tripes de Madame de Falaris. Ayant dit ces choses, il retomba exténué sur sa chaise, et entre eux trois, il y eut un grand silence. Quand Théophraste sortit de sa torpeur, ses yeux étaient pleins de larmes. Il fit signe à son ami et à sa femme d'approcher tout près de lui, et quand ils furent à ses côtés, il marqua une émotion pitoyable. « Mais je sens qu'Adolphe a raison. Un grand malheur me menace. Je ne sais lequel, mais je ne sais pas lequel, mon Dieu. Mon Dieu, je ne sais lequel. » Et il pleura. Adolphe et Marceline tentèrent de le consoler, mais il pleura encore. Et ils eurent eux aussi la douceur de pleurer. Ils s'étreignirent tous les trois. Théophraste les tenait embrassés. « Oh, jurez-moi, disait ce brave et honnête homme, jurez-moi de ne m'abandonner jamais, quoi qu'il arrive. » Ils le jurèrent de bonne foi. Alors Adolphe exigea qu'il lui apportât le document. Il alla le lui chercher. Ils se rassirent après s'être mouchés bruyamment. Adolphe avait étalé le document devant lui. Il y eut un pesant silence. Adolphe hochait la tête et puis, délibérément, il la releva. « Théophraste, ordonna-t-il, il faut tout me dire. Rêvez-vous quelquefois ?»« Oh, si je rêve, répéta notre ami, si je rêve, ouf, c'est bien possible. Mais comme mes digestions sont excellentes, je me rappelle guère avoir rêvé. » « Jamais ?» insista Adolphe. « Oh, jamais, c'est trop dire. Ainsi, il me souvient d'avoir rêvé 4 ou 5 fois dans ma vie, en effet. Il m'en souvient peut-être parce que je me réveillais chaque fois au milieu de mon rêve et que c'était toujours le même rêve. Mais de quel intérêt cela peut-il être dans le cas qui nous occupe, mon cher ami ?» Adolphe continua. Mais les rêves n'ont jamais été expliqués par la science. Celle-ci croit avoir tout dit en les attribuant à un effet de l'imagination. Mais cela ne nous donne pas la raison de ces visions si claires et si nettes qui nous apparaissent quelquefois. Ainsi explique-t-elle une chose qui n'est pas convenue par une autre qui ne l'est pas davantage. La question reste donc tout entière. C'est, dit-on, les souvenirs des préoccupations de la veille que nous rêvons. Mais en admettant même cette solution qu'il n'en est pas une, il resterait encore à savoir quel est ce miroir magique qui conserve ainsi l'empreinte des choses. En outre, comment expliquer les visions des choses réelles que l'on n'a jamais vues à l'état de veille et auxquelles même on n'a jamais pensé ? Qui pourrait affirmer que ce ne sont point là des visions rétrospectives des événements passés avant la vie ? En vérité, mon cher Adolphe, répliqua Théophraste avec une grande douceur, je dois vous avouer que les choses que j'ai rêvées, je les ai rêvées 3 fois, je l'affirme maintenant, sont peut-être réelles dans le passé ou dans l'avenir, mais que je ne les ai jamais vues à l'état de veille. Dans le présent, à propos de ces choses que l'on rêve, qui sont réelles et qu'on n'a jamais vues, l'auteur de ces lignes, c'est-à-dire celui qui modestement compulse les papiers de Théophraste, peut citer un exemple personnel. Depuis sa plus tendre enfance, il lui arrivait au moins une fois, chaque mois, de rêver qu'il traversait une forêt de Pologne. Il savait dans son rêve que c'était une forêt de Pologne. Il y avait dans cette forêt, sur la droite d'une allée boueuse et défoncée par les pluies, trois chênes décapités, et puis une petite cabane avec un tuyau de poêle sur le toit qui fumait, et un chien jaune à la porte qui ouvrait la gueule comme s'il aboyait, mais qu'il n'aboyait pas, parce qu'il était muet. Il rêvait cette chose qu'il n'avait jamais vue, et cependant elle était réelle, puisqu'un jour, il y a 5 ans, traversant la Pologne à quelques lieues de la frontière de Russie, il reconnut la forêt, l'allée humide et triste, les trois chênes découronnés par un récent orage, la cabane au tuyau de poêle et le chien jaune qui aboyait en silence. C'est en vain qu'il voulut à coups de canne le faire parler. Oui, qui donc expliquera jamais ces choses? Fin de la parenthèse. Vous me comprenez, congratula Adolphe. Racontez-moi donc ces choses que vous avez rêvées et que vous n'avez jamais vues. Oh, ce sera pas long, mais c'est tant mieux parce que c'est pas gai. Je rêvais que j'étais marié à une femme que j'appelais Marie-Antoinette et qui me trompait, et alors... Mais alors ? Interrogea Adolphe qui ne quittait plus des yeux le document. Mais alors, je la découpais en morceaux. Oh, l'horreur ! S'écria Marceline. C'est horrible, en effet, continua Théophraste en hochant la tête. Et alors ? Et alors ? Ben, je mettais les morceaux dans une hotte et j'allais la décharger dans la Seine, au petit pont de l'Hôtel Dieu. Ensuite, je me réveillais. Et je dois vous dire que j'en étais pas fâché. Adolphe donna un grand coup de poing sur la table. « Mais c'est épouvantable » s'écria-t-il d'une voix rauque en regardant Théophraste. « N'est-ce pas ?» dit Marceline, toute frissonnante. « Mais je viens de lire entièrement la première ligne du document, et voilà ce qui est épouvantable » continua-t-il à gémir. « Et là, je comprends maintenant !»« Et que comprends-tu ?» fit Théophraste, effrayé lui aussi, en suivant du doigt d'Adolphe les deux premières lignes du document. « Ben, ceci veut dire, affirma M. Le Camus, moi, RT, j'ai enfoui trésor, vous entendez, moi, RT, et vous ne savez pas qui c'est RT ? Eh bien, je ne veux pas vous le dire avant d'en être tout à fait sûr, et j'en serai sûr demain. Demain, Théophraste, soyez à 2 heures à l'angle de la rue Guénégaud et de la rue Mazarine. J'emporte ces documents, ces objets chez mon ami Mifroy, qui les restituera, ajouta-t-il, et à qui il sera prouvé qu'il y a encore des pickpockets, même avec le commissaire. Adieu, mon ami, adieu, et du courage, surtout du courage. Et Adolphe serra la main de Théophraste comme on serre la main d'un parent de mort. Théophraste ne dormit pas cette nuit-là. Pendant que Marceline reposait péniblement à ses côtés, il avait, lui, les yeux grands ouverts dans les ténèbres. Sa respiration était irrégulière et pleine de soupirs profonds. Une lourde anxiété s'était assise sur son cœur. Le jour se leva sur la ville, un jour d'une tristesse blême et sale qui enveloppa sinistrement les choses. En vain, le soleil d'été voulut-il pénétrer cette atmosphère fuligineuse et opaque. Midi, qui voyait ordinairement son triomphe, montra un globe épais, roulant sans gloire dans une lumière sulfureuse. Telle était exactement la peinture du ciel ce jour-là. Si je m'y suis attardé en 3 phrases, c'est qu'elle nous est nécessaire. Théophraste, de la première heure, sauta du lit et soudain réveilla Marceline par un accès d'hilarité insensée. Marceline lui demanda la cause d'une joie aussi étrange et il répondit que la nature ne lui avait pas fait la bouche assez large pour contenir le rire qui s'emparait de lui à la pensée de la tête de monsieur le commissaire de police Bifroy, qui ne croyait pas au pickpocket, devant le déballage de ces objets dont il avait gonflé les poches de son ami Adolphe pour qu'il les restituât. Il dit « Ma chère Marceline, mais c'est l'enfance de l'art de prendre un porte-monnaie dans une poche. Si vous n'y pouvez mettre la main, glissez-y une paille enduite de glu. Ce dernier système est excellent dans le travail à la presse. » Marceline se leva sur son séant et fixa avec effroi Théophraste, qui n'avait jamais eu l'air plus naturel. Théophraste mettait son caleçon. « Il manque un bouton à la patte, » dit-il. « Théophraste, tu m'épouvantes, » avoua Marceline. « Bien de quoi ?» répondit son époux en se mettant à quatre pattes pour chercher ses bretelles qui s'étaient enfouies sous le lit. « Mais on ne fait de bon travail, » ajouta-t-il, « qu'avec une bonne femme. Il n'y a rien à faire avec toi, tu seras jamais une bonne enquilleuse. »«
Une quoi ?»«
Une bonne enquilleuse. La prochaine fois que tu iras à la maison dorée, tu m'achèteras une paire de bretelles. Celle-ci ne pourrait même plus servir à réjouir le bourgeois. » Tu sais même pas ce que c'est qu'une enquilleuse. C'est honteux à ton âge. Une enquilleuse est une personne de ton sexe qui sait avec habileté cacher les objets des remets entre ses jambes. J'ai jamais eu de meilleure enquilleuse que la vache à pailler.
Mon pauvre enfant, gémit Marceline.
Théophraste fut pris d'une colère terrible. Il se précipita vers sa femme et la menaça du tire-bouton. « Mais tu sais bien que je veux plus qu'on m'appelle l'enfant depuis la mort de Jeanneton Vénus. » Marceline jura qu'elle ne recommencerait plus. Et elle se mit à regretter du plus profond de son âme l'heure funeste qu'il avait rendu propriétaire avec son époux d'un document qui lui promettait des trésors mais qui lui apportait tout de suite dans son ménage le trouble, la peur, l'intolérance, la folie et l'inexplicable avec un grand I. Après Marie-Antoinette, Jeanneton Vénus surgissait. Elle ne connaissait ni l'une ni l'autre et ne les devait point connaître. Mais son mari avait une façon familière de s'exprimer sur le compte de ces dames qui pouvait faire croire qu'il était très bien renseigné. Enfin, les phrases inattendues dans la bouche de Théophraste, tout en lui faisant redouter le Théophraste incompréhensible d'il y a 200 ans, lui faisaient surtout regretter le Théophraste si facile à comprendre de l'avant-veille. Elle se prenait à d'amères réflexions sur la théorie de la réincarnation. Théophraste avait fini de s'habiller. Il se plaignit encore qu'on n'eût point fait une reprise nécessaire à la boutonnière de son gilet à fleurs. Puis il annonça qu'il ne déjeunerait pas à la maison, qu'il avait rendez-vous avec son ami Va de Boncoeur au coin de la rue Mazarine et de la rue Guénégo pour faire un bon tour à un monsieur de Traneuse, officier ingénieur, qui le dégoûtait fort. Mais comme ce rendez-vous était après le déjeuner, il se promettait d'aller prendre l'air au Moulin et Chopinette. Marceline, sous sa chemise de nuit, tremblait à faire pitié. Elle regrettait l'absence d'Adolphe. Elle eut la force de dire à tout hasard ben, « Il fait bien mauvais pour aller prendre l'air au Moulin des Chopinettes. »« Bah !» répondit Théophraste fort logiquement, « je laisserai ici mon ombrelle verte et je prendrai ma plume noire. » Là-dessus, il s'en fut, et mettant la dernière main à sa cravate. Sur le palier, il rencontra M. Petitot, le professeur d'italien, qui descendait l'escalier lui aussi. M. Petitot salua très bas M. Longuet, se plaignit de l'état de la température et lui fit 1000 compliments de sa bonne mine. Théophraste répondit sur un ton peu aimable. Et comme M. Petitot, sur le trottoir, semblait ne devoir point quitter Théophraste, celui-ci lui demanda si Mme Petitot ne se résoudrait pas bientôt à apprendre sur le piano un autre air que le Carnaval de Venise.
Mais M. Petitot répondit en souriant qu'elle étudiait justement une étoile d'amour et qu'elle étudierait à l'avenir tous les morceaux qui pourraient convenir à M. Théophraste Longuet. Et M. Petitot demanda « De quel côté allez-vous, M. Longuet ?»« Bon, j'allais faire un tour au Moulin des Chopinettes, mais décidément le temps est trop pâté et je descends au Porcheron. » Au Porcheron. M. Petitot allait demander « Qu'est-ce que c'est que les Porcherons ?» Mais il se ravisa. « Moi aussi, » fit-il. « Ah ah !» répliqua Théophraste en jetant sur M. Petitot un singulier coup d'œil. « Vous aussi, vous allez au Porcheron ?»« Oh, allez là ou ailleurs !» dit M. Petitot en plaisantant. Et il suivit Théophraste. Il y eut un petit silence, au bout de quoi M. Petitot osa formuler cette question. « Et où en sont vos trésors, M. Théophraste Longuet ?» Théophraste fit brusquement demi-tour. « Eh ben, s'écria-t-il, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Vous vous rappelez que vous m'avez apporté un jour pour quelques remarques sur l'écriture ? Oui, je me le rappelle, et vous, vous avez tort de vous en souvenir. » Fit Théophraste d'un ton sec, en ouvrant son parapluie car il commençait à pleuvoir. M. Petitot, nullement découragé, se mit à l'abri sous le parapluie de M. Théophraste. « Oh, monsieur, je ne dis point cela pour vous désobliger. » Ils étaient arrivés au coin de la rue Trudel et de la rue des Martyrs. Ils descendirent. Théophraste était de fort méchante humeur. « Monsieur, dit-il, j'ai rendez-vous au cabaret du veau qui tête à côté de la chapelle des Porcherons que voici. » Mais c'est la chapelle Notre-Dame de Lorette et nullement celle des Porcherons. « Je n'aime point qu'on se paie ma tête, » affirma Théophraste. Monsieur Petitot protesta. « Moi, je sais bien qu'elle vaut cher. Ma tête, » continua Théophraste, en regardant M. Petitot de façon de plus en plus étrange. « Savez-vous combien elle vaut, M. Petitot, la tête de l'enfant ? Non ? Eh bien, je vais vous le dire, puisque l'occasion s'en présente. Et du même coup, je vous conterai une petite histoire dont vous pourrez faire votre profit. Arrêtons-nous ici, c'est le cabaret du veau qui tête. « Mais non, monsieur, » interrompit M. Petitot, qui commençait à s'effrayer, « c'est la brasserie Bousset. » « Il y a du brouillard, » répliqua Théophraste, « et c'est votre excuse. Vous avez perdu votre chemin parmi tous ces champs de culture. Ah ah, monsieur Petitot, vous avez voulu me nuire. Tant pis, monsieur Petitot, tant pis. Que prenez-vous, un verre de ratafia ?» La patronne de séance, cette excellente madame Taconnet. Parenthèse. Tous ces détails sont historiques. Madame Taconnet tenait, il y a 200 ans, à cet endroit, le cabaret du veau qui tête, non loin de la chapelle des Porcherons, qui fut démolie en 1800, et sur l'emplacement de laquelle on construit en 1802 une autre chapelle, qui fut celle de Notre-Dame de Lorette, rue Coquenard. Tout cet espace, situé au nord-ouest du boulevard des Italiens, était entièrement rempli par des champs en culture, des marais, des jardins et des maisons de campagne, et par le village des Porcherons, par une ferme nommée Grange Batelière, par le château du Coq, une voirie, le cimetière de Saint-Eustache. L'ensemble était traversé par un chemin qui partait de la porte Gaillon, s'avançait en formant des sinuosités, coupait la rue Saint-Lazare et allait aboutir au village Les Porcherons et à celui de Clichy. Le cabaret du veau qui tête avait une réputation terrible. Sa propriétaire, la veuve Taconnet, l'amie de l'enfant, donnait asile chez elle à tous les bandits de la capitale. Les caves du veau qui tête ouvraient sur des carrières célèbres, véritables repères, où les compagnons de l'enfant n'avaient rien à craindre de la police du roi. Fermez la parenthèse. Mais m'a mis de côté une bouteille qui vous embaumerait les boyaux. et comme un garçon orné d'un tablier blanc s'approchait, Théophras, sans sourciller, commanda « Deux bocs bien tirés, sans faux col !» Ainsi, sans préparation aucune, sans même s'en rendre compte, il reliait fort naturellement son existence d'autrefois à son existence d'aujourd'hui. Il reprit, cependant que M. Petitot regrettait intimement son insistance à accompagner jusqu'à la brasserie Bousset un homme qui prétendait être admis au cabaret du Vauquitette. « Ma tête vaut 20 000 livres, monsieur, et vous le savez bien. » Ce « et vous le savez bien » fut prononcé avec un tel ton et accompagné d'un tel coup de poing sur la table de bois qui supportait les deux bocs, que M. Petitot recula instinctivement. « N'ayez pas peur, M. Petitot, la bière, ça détache. Vous savez donc que ma tête vaut 20 000 livres. Eh bien, mon petit monsieur, il faut faire comme si vous ne le saviez pas. Ou il pourrait vous arriver du désagrément. Je vous ai promis un compte. Le voici. » Parenthèse. Historique. Du reste, tout ce que nous aurons l'occasion de raconter relativement à la vie de l'enfant est de la plus grande exactitude. Nous avons eu soin de nous éloigner toujours de la légende qui est de beaucoup moins extraordinaire que la réalité. Nous avons contrôlé les papiers de Théophraste, nous avons vérifié ses assertions, grâce à la parfaite complaisance de messieurs les bibliothécaires de la Nationale, de Carnavalet et de l'Arsenal. Nous avons vu les pièces du procès de l'enfant, qui est le plus formidable procès criminel des temps modernes. Enfin, comment aurions-nous douté des dires du principal intéressé, je le nommé Théophraste, qui mieux que lui connaîtra son histoire. Fermons la parenthèse. Je me promenais il y a quelque 200 ans de cela, rue de Vaugirard, les mains dans les poches, sans armes, sans même une épée, et le plus honnêtement du monde, quand un homme m'aborda au coin de cette rue de Vaugirard et de l'enfant Jésus. Il me salua jusqu'à terre et me dit que ma figure revenait beaucoup, comme vous dites, monsieur Perito, et qu'on appelait le bonhomme Badel, et qu'il avait un secret à me confier. Je l'encourageais d'une petite tape amicale sur l'épaule. Ici, monsieur Théophraste Longuet décharge une telle petite tape sur l'épaule de monsieur Petitot que monsieur Petitot pousse un gémissement et sort sa monnaie dans le désir qu'il étreint d'aller voir dehors si le brouillard s'est dissipé. Rentrez donc votre monnaie, monsieur Petitot, c'est moi qui régale. Alors je disais donc que le bonhomme Bidel, encouragé par une petite tape amicale sur l'épaule, monsieur Petitot glisse sur la banquette, me confia son secret. Il me dit dans le tuyau de l'oreille que le régent avait promis 20 000 livres qui ferait arrêter l'enfant et qu'il savait lui où se cachait l'enfant, que je lui étais apparu comme un homme de courage et qu'il se faisait fort avec mon aide de gagner les 20 000 livres. On partagerait. Mais le bonhomme Bidel était bien mal tombé, monsieur Petitot, car moi aussi je savais où se trouvait l'enfant, puisque l'enfant... c'était moi! Monsieur Petitot n'en veut rien croire. Il estime à part lui que depuis de longs mois, Monsieur Longuet n'est plus un enfant. Mais il n'ose le dire. Alors je répondis au bonhomme Bidel que c'était là une bonne aubaine et que je remerciais le ciel de l'avoir mis sur mon chemin. Et je le priais de me conduire à l'endroit où se trouvait l'enfant. Alors il me dit. Ce soir, l'enfant couche au Capucin, dans une petite auberge qui est à l'enseigne de la croix de la Sainte-Hostie. C'était vrai, monsieur Petitot. Le bonhomme Bidel était bien renseigné, je l'en félicitais. Nous passâmes alors devant une boutique de coutellerie et j'achetais, sous le regard étonné de Bidel, un petit couteau d'un sou. Les yeux de Théophraste lancent des éclairs, les paupières de monsieur Petitot battent de terreur.
La madame Bidel me demanda dans la rue ce que je comptais faire avec un petit couteau d'un sou. Et je lui répondis, avec un petit couteau d'un sou. Monsieur Longuet se rapproche de Monsieur Petitot. Monsieur Petitot s'éloigne de Monsieur Longuet. On peut toujours tuer une mouche. Et je le lui plongeai dans le cœur. Oh, il s'a fait ça en faisant des moulinets avec ses bras. Il était mort. Monsieur Petitot, qui avait d'abord glissé sur la banquette, glisse dessous, et de dessous de banquette en dessous de banquette, gagne la porte et recouvre la liberté. Monsieur Théophraste Longuet vide son boc, se lève et va à la caisse de la brasserie Bousset où Madame Berthet compte des jetons. Il lui dit « Madame Taconnet !» Madame Berthet se demande pourquoi Monsieur Théophraste l'appelle Madame Taconnet. Cette demande informulée reste sans réponse. « Si vous recevez ici le chevalier Petitot, vous lui direz de ma part que la première fois que je retrouverai sur mon chemin, je lui couperai les oreilles. » Ce disant, Théophraste caresse le manche de son parapluie comme on caresse le manche d'un poignard. Il n'y a pas de doute, Théophraste a sa plume noire. Il est tout à fait l'autre. Et il s'en va sans payer. Le brouillard était encore épais. Il ne songea pas à déjeuner. Il marchait dans cette buée sulfureuse comme en un rêve. Il traversa tout l'ancien quartier d'Antin et ce qui fut autrefois la ville l'évêque. Quand il aperçut l'ombre des tours de la Trinité, il dit « Oh, oh, le château du coq !» Il était à la gare Saint-Lazare quand il croyait être à la petite Pologne. Mais peu à peu, le brouillard s'étant dissipé, son rêve avec lui s'envola. Il eut une notion plus exacte des choses. Quand il traversa la Seine au Pont-Royal, il était redevenu un honnête Théophraste, et quand il mit le pied sur la rive gauche, il n'avait plus qu'un vague souvenir de ce qui venait de se passer sur la rive droite. Mais il avait ce souvenir. En effet, quand il s'interrogeait bien, maintenant qu'il commençait à avoir l'expérience de ses différents états d'âme, premièrement, celui qui résultait de son existence actuelle d'honnête marchand de timbres en caoutchouc, deuxièmement, celui qui résultait de la résurrection soudaine et momentanée de l'autre, troisièmement, celui qui résultait du souvenir. Et ce souvenir était en lui comme un troisième Théophraste qui eût raconté au premier ce qu'il savait du second. Autant la résurrection en Théophraste était un événement terrible, nous l'avons vu et nous le verrons encore avec M. Petitot, autant le souvenir était une chose douce, mélancolique et propre à faire naître en un cœur indolori le sentiment d'une tristesse toujours aimable et d'une pitié philosophique. Mais pourquoi, se disait-il maintenant en se dirigeant vers la rue Guénégaud, mais pourquoi Adolphe a-t-il donné rendez-vous au coin de la rue Guénégaud et de la rue Mazarine? Il s'y achemina. Il ne voulut point passer par le coin de la rue Mazarine qui longe le palais de l'Institut, autrefois des Quatre Nations. Il ne savait pas pourquoi. Il fit le tour par l'hôtel de la Monnaie, et ainsi arriva-t-il rue Guénégaud. Adolphe était là, qui le prit par le bras. N'auriez-vous point entendu parler, mon cher Adolphe, lui dit-il, d'un nommé l'Enfant? Oui, oui, dit Adolphe, j'en ai entendu parler. Je sais même son véritable nom, son nom de famille. Ah! « Et quel est-il ?» demanda anxieusement Théophraste. Adolphe, pour toute réponse, poussa Théophraste dans la petite allée d'une vieille maison de la rue Guénégaud, à quelques pas de l'hôtel de la Monnaie. Ils montèrent un escalier branlant et entrèrent dans une chambre dont les rideaux étaient tirés. On avait fait la nuit dans cette chambre. Mais sur une petite table, dans un coin,
la flamme tremblante d'une bougie éclairait uniquement un portrait. C'était l'image d'un homme d'une trentaine d'années, à la figure énergique, au regard flamboyant. Il avait le front haut, le nez fort, le menton ras, la bouche grande, la moustache hirsute. Le cheveu nombreux était coiffé d'une toque de laine ou de feutre grossier, et l'habit paraissait d'un prisonnier. Sur le torse s'entrouvrait une chemise de grosse toile. « Tiens ?» fit Théophraste sans hausser le ton. « Comment mon portrait se trouve-t-il dans cette maison ?»« Votre portrait ?» s'écria Adolphe. « En êtes-vous bien sûr ?»« Ben, qui donc peut en être plus sûr que moi ?» fit encore Théophraste sans s'émouvoir. « Eh bien, ce portrait, se décida à avouer Monsieur Le Camus, avec une émotion que nous n'essaierons pas de décrire. Ce portrait, qui est votre portrait, c'est le portrait de Cartouche !» Quand Monsieur Le Camus se retourna pour juger de l'effet qu'il avait produit sur son ami, il vit Théophraste étendu sur le parquet, évanoui. Longtemps, il lui tapa dans les mains après avoir soufflé la bougie et ouvert la fenêtre. Quand Théophraste revint à lui, les premiers mots qu'il prononça furent ceux-ci. « Adolphe, surtout, ne le dites pas à ma femme !»